nombreux couacs, le Brexit a eu lieu.
Et ce soir, à 23h, Big Ben ne sonnera pas, mais le Royaume-Uni sortira tout de même de l'Union européenne.
Le jour J pour le Brexit, ça y est, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne. Une date historique.
Le Brexit et ses conséquences. La France va perdre une grande partie de ses conseillers municipaux.
C'est qui Nigel Farage? Ce soir à 23h, cet homme politique anglais, en fait, ne sera plus grand-chose. Son combat est terminé, son rêve réalisé.
Sur le port de Calais, rien n'a changé, malgré le Brexit qui commence officiellement ce soir. Autrement dit, entre hier et demain, si vous voulez vous rendre à Douvres en ferry, les formalités sont toujours les mêmes.
This is the end, or maybe the beginning. En tout cas, ce n'est qu'un au revoir, chantaient les parlementaires britanniques mercredi, alors que le Royaume-Uni est sorti officiellement de l'Union européenne hier soir à 23h, minuit, heure française. Alors que depuis 3 ans et demi, la frénésie du Brexit ne s'est pas arrêtée, le 31 janvier 2020 sonne-t-il comme une fin ou un nouveau début pour les médias? Depuis des années, le sujet fait la une avec ses rebondissements, ses personnages clés, de Theresa May à Boris Johnson, les journalistes spécialistes de l'Union européenne ou de l'économie n'ont pas eu le temps de s'ennuyer. Mais comment traiter d'un sujet aussi complexe sans lasser les lecteurs, auditeurs, spectateurs? Que va-t-il se passer maintenant? Les médias auront-ils une vie après le Brexit? C'est le sujet de notre fabrique médiatique du jour avec nous en studio, Marc Epstein, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, journaliste franco-britannique. On va l'entendre dans un accent très léger de votre voix dans un instant. Vous venez de quitter votre poste de chef du service Monde à l'Express que vous occupiez depuis 15 ans, je crois, depuis 2005. Et puis au téléphone avec nous depuis Londres, John Henley, bonjour.
Bonjour.
Correspondant Europe du Guardian à Paris, un des grands journaux britanniques qui a été favorable au Remain avec The Independent et le Financial Times. John Henley, vous avez quitté Paris hier, pris le dernier Eurostar en tant que citoyen européen, non sans une certaine émotion.
Complètement. Oui, il y avait vraiment beaucoup d'émotions dans ce train. Beaucoup de Britanniques qui, comme vous le dites, faisaient leur dernier voyage en tant que citoyens européens. Il y avait des gens qui étaient très inquiets pour l'avenir, en fait, parce que malgré le fait qu'on a passé 3 ans et demi à en parler, on ne sait toujours pas vraiment à quoi ça va ressembler, ce Brexit. Il y avait des gens qui se posaient des questions de nature complètement pratique, du genre, est-ce que la prochaine fois que je vais faire ce voyage, j'aurai besoin d'un visa d'attendre dans une autre file d'attente pour les gens avec les passeports non européens. Il y avait des gens vraiment qui avaient le sentiment d'avoir très émotionnel, hein, d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu une véritable partie de leur identité européenne. Et peut-être le plus touchant, en fait, c'était, il y avait pas mal de retraités britanniques qui avaient passé quelques jours à Paris, et beaucoup d'entre eux qui disaient que pour eux, peut-être que ça ne voulait pas dire grand chose, ça changerait pas grand chose pour eux, mais qu'ils étaient vraiment tristes pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ils disaient, on a eu l'occasion, on a eu cette liberté de pouvoir voyager librement, de vivre, de travailler dans tous ces pays européens, et nos enfants, nos petits-enfants, ils n'auront plus ce droit.
C'est peut-être...
Donc, c'était un voyage émotionnel.
Plein d'intensité. C'est peut-être le sens d'ailleurs d'un article du Monde.fr aujourd'hui, 31 janvier 2020, ce jour où rien n'a changé. Tout a changé. Marc Epstein, ça fait 3 ans et demi que les médias parlent d'un feuilleton interminable. D'ailleurs, c'est un terme qu'on a souvent lu, feuilleton interminable. Est-ce que toutes les bonnes choses ont une fin?
Je sais pas si c'était une bonne chose. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que la conversation qui devenait proprement névrotique, hein, au Royaume-Uni, c'était vraiment terrible. On le comprend en écoutant John, d'ailleurs. Il y a des couples qui se sont séparés à cause de cette histoire. C'était le sujet dont il ne fallait surtout pas parler à Noël, au moment des réunions familiales, etc. Dans les entreprises, tout ça. Il y a des amitiés qui se sont déchirées. Donc, c'est un sujet qui était très riche en affect, en émotion, qui faisait appel à, comme ça, au passé, à l'histoire du pays, mais aussi à l'histoire de chacun d'entre nous. Quand je dis nous, pour le coup, je parle sous ma casquette britannique. Et pour le coup, j'ai le sentiment que cette conversation-là est terminée. C'est un peu comme dans un couple, quand on a été ensemble depuis un moment, en l'occurrence depuis un peu plus d'une quarantaine d'années, et on commence à s'engueuler, on n'est plus d'accord. Il y a des tas de films qui ont été faits autour de ça. Ce sont des histoires très très fortes. Et puis bon, il y a un moment où ça y est, c'est acté. L'un et l'autre, on fait ce constat que on va se séparer. Et on en est là dans l'affaire du Brexit. C'est-à-dire que on serait dans un couple, maintenant on va faire appel aux avocats et on va savoir qui garde le poste de télévision, à qui part avec le canapé, on va se disputer l'appartement, etc., etc. Et là, pour le coup, la conversation, il me semble, elle ne va plus monopoliser la société, les Britanniques eux-mêmes et dans une moindre mesure les Européens du continent. Elle va passer à l'échelle des dirigeants. C'est le sens des négociations qui démarrent. Et du coup, le sujet du Brexit lui-même, du point de vue des médias, va changer.
John Henley, pour le journaliste que vous êtes, alors en plus vous n'avez pas arrêté depuis 3 ans et demi, d'ailleurs même hier, puisque vous aviez commencé la journée par une présence de 2 heures dans la matinale de France Inter avant de prendre votre Eurostar. Vous avez tenu une newsletter hebdomadaire pendant 3 ans et demi, une newsletter qui vous fait 200 000 abonnés. Vous avez tenu un podcast mensuel sur les aspects techniques du Brexit. Est-ce que pour vous aujourd'hui c'est une forme de délivrance ou vous êtes face à l'angoisse de la page blanche?
Écoutez, je dirais les deux. C'est un moment énorme. Il faut dire que moi j'ai trouvé ça ces 3 ans et demi, même avant, j'ai trouvé ça en tant que journaliste un exercice extrêmement délicat, extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que moi j'ai passé 25 ans de ma vie dans 5 pays européens différents. Ma femme, elle est française, mes enfants sont nés à Paris. Moi, je me sens profondément européen. Ce Brexit, surtout organisé comme il a été sur la base, en fin de compte, je pense qu'on peut le dire, de mensonges, ou au moins de promesses qui seront vraiment très 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 difficiles à tenir. C'est vraiment un déchirement. Et évidemment, il y a une obligation en tant que journaliste d'essayer de rester objectif, de rester neutre. Mais j'ai trouvé ça très très difficile. Et surtout, je n'ai jamais travaillé sur un sujet qui est à la fois aussi énorme professionnellement, je veux dire, comme a dit Marc, c'est vraiment historique, c'est un moment historique, c'est un événement historique, ce Brexit, donc à la fois historique, mais auquel aussi je tiens aussi fort personnellement, que je me sens impliqué personnellement autant. Et ça, c'est franchement, c'est pas très facile pour l'équilibre mental. Je le vis comme une sorte d'amputation, le Brexit, enfin. Donc voilà, oui, pour répondre à votre question, une page va tourner. Je pense que ça va devenir maintenant assez technique. Les négociations deviendront très vite, très détaillées, très techniques. Et je vais essayer, franchement, de prendre un petit peu de recul.
C'était aussi difficile pour vous, Marc Epstein, de rester impartial avec ce sujet?
Sur un plan personnel, c'est, comment dire, parce que je suis franco-britannique, j'ai les deux passeports, c'est attristant. C'est attristant, c'est-à-dire que John en parlait, la campagne, surtout au moment du référendum, donc on est en 2016, de part et d'autre, mais surtout dans le camp des pro-Brexit, il y a énormément de choses qui étaient, ça fait penser au fond un petit peu au populisme version Donald Trump, c'est-à-dire que les faits. Nous journalistes, on a l'habitude de travailler sur des sujets, c'est un peu notre raison d'être quand même, de travailler sur des sujets où il y a des faits, il y a un dialogue raisonné, dans le meilleur des cas, raisonnable. On peut... Il y a le pour, il y a le contre, mais il y a des faits un petit peu objectifs. Dans la campagne pour le Brexit, un petit peu comme dans la campagne qu'a pu mener Donald Trump aux États-Unis, les faits, au fond, on avait l'impression que ça avait une importance secondaire. Et cette question du Brexit au Royaume-Uni, notamment en Angleterre, parce qu'il faut distinguer l'Angleterre de l'Écosse, l'Irlande du Nord, le Pays de Galles, on a vraiment le sentiment que c'est quelque chose où l'identité collective était en jeu, mais l'identité individuelle aussi. On était assez souvent dans l'irrationnel quand même. Et du coup, pour des journalistes, c'est compliqué.
Dans la fabrique médiatique ce matin, on se demande si pour les médias, il y a une vie après le Brexit. Et nous sommes en compagnie de deux journalistes, John Henley, qui est le correspondant du Guardian à Paris, responsable des pages Europe, et de Mark Epstein, qui vient de quitter son poste de chef du service Monde au journal L'Express. Le Guardian, John Henley, a mis en place une cellule dédiée à la couverture du Brexit. Est-ce que ça a toujours été facile, que vous disiez, c'est un événement historique, mais qu'il a fallu le traiter quand même pendant quelques années. Facile ou difficile de trouver des angles de nouveaux, des informations à donner. Mark Epstein parlait à l'instant de faits objectifs. Est-ce que il a fallu aussi, sans doute, après le choc du livre, vous remettre en question, ou en tous les cas, on sait que ça a eu un impact sur la rédaction du Brexit, sur la rédaction du Guardian notamment. Donc, comment le journal a-t-il vécu ces 3 ans et demi, là, je parle vraiment de l'intérieur même du fonctionnement de la rédaction.
Oui, on a fait plusieurs choses. Comme vous le dites, c'était un grand choc, le résultat du référendum. Je pense que la plupart de la rédaction était convaincue que ça allait se passer un petit peu comme le référendum pour l'indépendance de l'Écosse 2 ans auparavant, c'est-à-dire que les électeurs allaient être très, très enthousiasmés par l'idée. Après, au moment de mettre le bulletin de vote, ils allaient se dire « Ouh là là, ça a l'air assez craignos, je vais peut-être pas le faire ». Et en fait, ça s'est pas passé comme ça, donc il fallait se poser la question vraiment « Pourquoi ?». Donc on a fait plusieurs choses, on a notamment, je pense, doublé les effectifs, dans notre bureau de Manchester, dans le nord de l'Angleterre, vraiment conscience, on a pris conscience en fait que un peu comme l'élection de Donald Trump aux États-Unis, un peu comme la réussite de Marine Le Pen en France relative, il y avait des endroits dans le pays qu'on avait peut-être ignoré, qu'on n'avait pas vraiment essayé de comprendre. Donc ça, c'est une chose. Une deuxième chose, je pense que c'est très important de le dire, on était très conscient du besoin de rétablir, comme a dit Marc, de rétablir les faits, hein, et de vraiment être très très rigoureux avec ça. Et je pense qu'on a pris conscience qu'on n'avait pas fait pendant, et là je parle, ça date d'un bon moment, et c'est pas que nous, je pense que la BBC, les autres journaux sérieux en Grande-Bretagne ont compris la même chose. La presse populiste, la presse nationaliste, les tabloïds, etc., on n'a pas fait assez, nous, les journaux plus sérieux, plus modérés, pour contrer ce qu'il faut, je pense, bien nommer une sorte de propagande qui s'est instaurée au fil des années par rapport à l'Union européenne. Je pense que la presse britannique a été coupable, les médias britanniques ont été coupables dans deux domaines. Premièrement, je pense que ils ont réussi à créer dans la tête de beaucoup d'Anglais une impression complètement fausse de la vraie importance, la vraie position, la vraie place de la Grande-Bretagne dans le monde moderne. Ils ont réussi à instaurer ce rêve d'empire, ce rêve d'un passé glorieux, que voilà, si on quitte l'Union européenne, évidemment, on va retrouver notre place historique dans le monde. Bah, alors non, le monde a changé depuis. Et deuxièmement, ils ont aussi réussi à créer, avec la fabrication, l'invention d'un genre, d'un tout nouveau genre, et Boris Johnson, qui était correspondant du Daily Telegraph à Bruxelles pendant 5 ans, a fait beaucoup pour ça. Ces euromythes, ces critiques de l'Union européenne qui sont en fait complètement infondées. Et ils ont réussi à créer l'impression auprès des Britanniques, en fait, que l'Europe, au lieu d'être un grand projet collaboratif où chacun a sa voix, était en fait une sorte de complot méchant de 27 pays contre un. Et moi, je me pose toujours la question, je trouve ça fascinant, et ça doit vraiment être le sujet d'un travail plus important un jour. Comment un pays qui, il y a à peine 100 ans, gérait, régnait sur, contrôlait, gouvernait un tiers du monde, l'Empire britannique, comment il est passé à ce statut-là, ou à une position où il s'est auto-convaincu qu'il vit dans une sorte de dictature de Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, vous voyez, vous avez encore beaucoup de sujets à aborder, puisque vous allez faire beaucoup de reportages pour essayer de comprendre précisément et pour pouvoir répondre à cette question. Dernière question à tous les deux. Vous disiez que le sujet va changer de nature, qu'après la négociation sur la crise de couple et le divorce, ça va être la mise en œuvre un peu plus technique. Est-ce que vous allez continuer à en parler, ou est-ce que le Mexique, c'est-à-dire l'annonce de la mise en retrait de la famille royale et du possible départ au Canada du prince Harry et de son épouse Meghan, va remplacer le Brexit? Rapidement, très rapidement, John Henley, puis Marc Epstein.
Ça reste pour nous, pour le Guardian, ça reste Meghan et Harry, ça reste un sujet anecdotique essentiellement. Le Brexit, c'est quand même l'avenir de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne. On va continuer de le suivre.
Marc Epstein.
Tandis qu'en France, je pense que. Bon, bien sûr que c'est un sujet anecdotique pour nous aussi, mais c'est un sujet anecdotique qui est plus facile à comprendre, qui sera justement moins technique, beaucoup plus incarné. Ça va bien sûr nous intéresser, le Mexique.
Oui. Et ce sujet du Brexit technique, à l'Express par exemple, il va continuer d'occuper un certain nombre de pages, vous pensez?
Moi, je ne travaille plus à l'Express depuis 3 mois. La couverture du dernier numéro était consacrée au Brexit. Donc
c'est peut-être le dernier.
Non, je pense pas que ce soit le dernier, mais encore une fois, à partir du moment où le sujet devient plus technique et où au moment où les négociations sont encore en cours, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore le résultat des négociations, on ne sait pas ce qui se passera pour la pêche, pour l'industrie automobile, etc. Ce sont des papiers qui seront sans doute moins lus que ceux consacrés à Meghan.
À suivre donc ce Brexit et la suite du Brexit. Merci beaucoup à vous, Marc Epstein, d'être venu ce matin. Et merci beaucoup, John Henley. Je pense qu'il est temps d'aller dormir pour vous. Merci, John Henley.
Merci.
On se retrouve après le journal.